pourrions lire dans le livre de Job, un verset, Job chapitre 28. Job 28, verset 28. Et il dit à l'homme, « Voici la crainte du Seigneur, c'est là la sagesse, et se retirer du mal est l'intelligence. » Dans l'Ecclésiaste, chapitre 12, le début du verset 13. Écoutons la fin de tout ce qui a été dit. Crains Dieu et garde ses commandements. Encore un verset dans la première épître de Pierre. Chapitre 2, première épître de Pierre, chapitre 2, à la fin du verset 17. Craignez Dieu. Craignez Dieu. L'apôtre Paul, quand il a écrit à Timothée, il lui a écrit que la piété est utile à toute chose. La piété implique une relation avec Dieu. Un chrétien, depuis sa conversion, a une relation avec son Dieu, qu'il connaît maintenant comme étant son Père. Et les deux piliers de la piété, c'est d'abord la confiance en Dieu, en ses voies. Nous pouvons nous remettre entièrement entre ses mains, mais aussi la piété, le deuxième pilier, c'est la crainte. C'est la crainte de déplaire à Dieu. Et dans le livre de Job, il nous est dit que la crainte du Seigneur, c'est de se retirer du mal. La crainte de Dieu exprime un respect envers Dieu et aussi une confiance en sa sagesse, en sa puissance, en son amour vis-à-vis de chacun de nous. Et donc nous sommes appelés à avoir une relation vivante et confiante en Dieu. Mais Dieu attend de nous qu'il ait la première place, une place d'honneur et de respect. Et donc, nous avons donc à craindre Dieu, à craindre de lui déplaire, à craindre la crainte de nous engager dans une voie qu'il n'approuve pas. avec le désir de glorifier le Seigneur Jésus dans notre vie et le désir de le glorifier. Alors chacun de nous allons répondre à cette question, est-ce que nous désirons donner à Dieu la première place? Et la première chose que Dieu nous demande, c'est de se retirer du mal. Le problème actuellement, c'est que de plus en plus, on appelle le bien mal et le mal bien. Et comment éclairer notre intelligence spirituelle, comment éclairer notre conscience, c'est par la lecture de la parole de Dieu. Elle seule peut nous éclairer pour que nous fassions la part des choses entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et si nous avons la crainte de Dieu, il y aura toujours des effets visibles. Si dans ma vie je crains Dieu, je vais avoir des choix à faire, des choix dans ma vie professionnelle, des choix peut-être dans ma vie sentimentale, des choix de toutes sortes. Et pour nous aider dans ces choix, nous avons la parole de Dieu et il faut que nous soyons animés de cette crainte de Dieu. Et si nous sommes proches de Dieu, dans cette relation de proximité avec lui, nous sentirons très vite si le choix que nous faisons, il est approuvé ou il n'est pas approuvé par Dieu. Un verset peut-être aussi dans Ésaïe. Chapitre 66. La moitié du verset 2. Mais c'est à celui-ci que je regarderai, à l'affligé, à celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. Quand nous recevons la parole de Dieu dans nos cœurs, dans nos consciences, si véritablement elle fait son effet en nous, eh bien, il faut que nous prenions conscience immédiatement si nous sommes dans ce chemin de la parole de Dieu qui nous éclaire ou si nous ne sommes pas dans ce chemin de la parole de Dieu. Et nous voyons que Dieu du haut du ciel ou des cieux, il regarde chacun de nous et il regarde si nous tremblons à sa parole. C'est-à-dire, est-ce que nous avons ce désir d'être obéissants et de suivre ces commandements? Commandements non pas dans un esprit légal, mais ce qu'il nous dit dans sa parole, ce désir de lui obéir. Nous trouvons des exemples dans la parole de Dieu, de beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient animés par cette crainte de Dieu. On peut lire par exemple dans la Genèse, au chapitre 22, en ce qui concerne Abraham. Genèse 22, verset 12. Et il dit, n'étends pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Nous nous souvenons de que l'Éternel avait voulu éprouver Abraham et il lui avait demandé donc de l'offrir à Morija. Et au verset 12, au milieu, maintenant je sais que tu crains Dieu. Voilà un homme de foi, et le témoignage de la parole de Dieu, c'est qu'il craignait Dieu. Dans l'Exode, passage bien connu, au chapitre 3, verset 6, à propos du buisson ardent, à la fin, Moïse cacha son visage car il craignait de regarder vers Dieu. Dans le livre de Josué, au chapitre 5, versets 13 à 15, « Et il arriva comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva les yeux et vit, et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans sa main, et Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Et il dit, « Non, car c'est comme chef de l'armée de l'Éternel » que je suis venu maintenant. Et Josué tomba sur sa face contre terre et lui rendit hommage et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte ta sandale de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Encore un autre exemple d'Ésaïe, au chapitre 6, verset 5, donc en présence de cette vision du Seigneur assis sur son trône haut élevé, et nous voyons donc verset 5, malheur à moi, je suis perdu, car moi je suis un homme aux lèvres impures et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures, car mes yeux ont vu le roi. Verset 7, voici, ceci a touché tes lèvres et ton iniquité est ôtée et propitiation est faite pour ton péché. Une des caractéristiques des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était la crainte de Dieu. Nous connaissons maintenant Dieu comme notre Père en Jésus-Christ, et nous devons avoir aussi un respect qui est dû à notre Père. Si nous avons des relations heureuses avec lui, nous devons avoir ce respect, cette crainte de lui déplaire. Quelquefois, on voit la crainte de Dieu comme quelque chose de difficile, qui peut être douloureux. Mais si nous lisons attentivement, à la fois dans les psaumes et aussi dans les proverbes, nous voyons qu'il y a beaucoup de bénédictions de bienfaits qui sont liés à la crainte de Dieu. Et pour en passer quelques-unes en revue, Dieu voulant, on pourrait commencer dans le psaume 25. Je ne fais que citer des versets avec peu de commentaires. Il faut comprendre que ceux qui craignent Dieu, ceux qui craignent l'Éternel, bien Dieu en tient compte et il y a des bénédictions qui sont liées à la crainte de l'Éternel, à la fois individuellement, à la fois en famille et aussi dans l'Assemblée. Et nous trouvons ces choses à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans le psaume 25, nous lisons au verset 12, qui est « L'homme qui craint l'Éternel, il lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. » Verset 14, « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître son alliance. » La première des bénédictions que nous trouvons dans le livre des psaumes liées à la crainte de Dieu, c'est que si dans notre vie personnelle de famille, nous craignons Dieu, eh bien la bénédiction qui s'écoule immédiatement, c'est qu'il nous enseignera le chemin que nous devons choisir. Prier avec foi, prier avec cette certitude que Dieu nous écoute, avec ce désir de lui obéir, eh bien, nous voyons que Dieu lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. Si vous vous posez des questions aujourd'hui quant à votre travail, quant à votre choix pour des études, pour tellement de choses, eh bien, il faut que vous sachiez et que je sache aussi avec vous que si nous craignons l'Éternel, eh bien, il va nous enseigner le chemin que nous devons prendre. C'est une certitude, c'est une promesse que Dieu nous fait dans sa parole. Si nous craignons Dieu, eh bien, Dieu nous enseignera dans quel chemin nous devons marcher, dans quel chemin, dans le chemin dans lequel nous devons prendre. Psaume 31, un deuxième verset. Psaume 31, verset 19. Oh, que ta bonté est grande, que tu as mise en réserve pour ceux qui te craignent, et dont tu uses devant les fils des hommes envers ceux qui se confient en toi. Deuxième bénédiction, eh bien, Dieu a en réserve de la bonté, de la grâce, de la miséricorde envers chacun de ceux qui le craignent. Et il a compassion. Dieu a compassion. Il sait de quoi nous sommes faits. Et donc, il a cette bonté en réserve pour ceux qui le craignent. Psaume 33, verset 18. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bonté. Si nous craignons Dieu, il nous indiquera dans quel chemin nous devons marcher quel chemin nous devons choisir. Il a en réserve pour nous de la bonté, de la grâce, de la miséricorde. Et non seulement cela, mais l'œil de l'Éternel ne nous quitte pas. Du haut du ciel, nous voyons que son œil ne nous quitte pas. Il nous protège, il nous garde, et il garde particulièrement ceux qui le craignent. Un petit peu plus bas, psaume 34, il nous est dit au verset 7 et au verset 9, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Encore des bénédictions qui sont liées à la crainte de l'Éternel. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Nous avons une protection, une garde constante. Et le psalmiste qui insiste, mais craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque, rien ne manquera. Un petit peu plus loin. Dans le psaume 61. Verset 5. « Car toi, ô Dieu, tu as entendu mes vœux. Tu m'as donné l'héritage de ceux qui craignent ton nom. » Tu as entendu mes vœux. Tu as entendu mes prières. Tu as entendu mes souhaits. Toujours peut-être pour la recherche d'un travail, pour la recherche d'une orientation dans la vie. Pour beaucoup de choses, des choix. Et le psalmiste, il dit, « Tu as entendu mes vœux. » Et la réponse est certaine pour ceux qui craignent ton nom. Encore une bénédiction pour ceux qui craignent Dieu. Encore, psaume 85, verset 9, « Certainement, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire demeure dans notre pays. » Certainement, son salut est près de ceux qui le craignent. Quelquefois, les circonstances sont vraiment extrêmement difficiles. Il n'y a pas de solution quant à l'homme. On cherche des solutions, il n'y en a pas. Mais nous voyons que pour Dieu, eh bien, il y a toujours son salut, c'est-à-dire une solution. Et près de ceux qui le craignent. C'est-à-dire, il a toujours en réserve quelque chose pour nous tirer d'une situation qui semble, quant à l'homme, inextricable. Certainement, son salut est près de ceux qui le craignent. Toujours des bénédictions, les unes qui s'enchaînent aux autres pour ceux qui craignent son nom. Encore, sans vouloir alourdir, dans le psaume 103, toujours ces expressions, verset 11, deuxième partie, « Sa bonté est grande envers ceux qui le craignent. » Verset 13, « Comme un père a compassion de ses fils. » L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Verset 17. Mais la bonté de l'Éternel est de tout temps et à toujours sur ceux qui le craignent. Ne pensons pas que c'est un hasard si l'Esprit de Dieu insiste dans les psaumes sur ce qui est lié à la crainte de Dieu, à la crainte de l'Éternel, sa bonté, ses compassions, de tout temps et à toujours. Donc nous voyons toujours ces bénédictions. Encore peut-être à la fin des psaumes, psaume 145, verset 19, il accomplit le souhait de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. Psaume 147, à côté, verset 11, « Le plaisir de l'Éternel est en ceux qui le craignent et ceux qui s'attendent à sa bonté. » Dans les Proverbes, quelques passages qui nous parlent aussi de la crainte de Dieu, et ce sont des passages qui sont, quand on les lit, assez surprenants. Et nous voyons que dans les Proverbes, la crainte de Dieu a une influence heureuse sur le croyant d'un point de vue émotionnel, psychologique et physique. Je ne veux pas dire par là que nous sommes à l'abri de maladies ou de choses d'infirmité. Mais nous voyons qu'il y a des bénéfices, il y a des bénédictions qui sont liées, même pour le chrétien, d'un point de vue émotionnel, physique et psychologique. Chapitre 3 des Proverbes. Verset 7. Deuxième partie, crains l'Éternel et éloigne-toi du mal, ce sera la santé pour ton nombril et un arrosement pour tes eaux. Voyons là qu'il y a un effet heureux et positif sur la santé physique. Quand je crains Dieu, je me repose sur lui. Et donc, il y a un bienfait de pouvoir se remettre à Dieu paisiblement. Je m'en remets à sa grâce. Je m'en remets à lui. Eh bien, cela a un effet même sur ma santé, hein, sur notre santé physique. Si ce n'était pas la parole de Dieu qui l'exprimait, nous pourrions nous poser des questions. Mais c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Encore un verset dans ce sens, dans le chapitre 10 des Proverbes. Verset 27. La crainte de l'Éternel ajoute des jours, mais les années des méchants seront raccourcies. Encore une bénédiction sur la santé. Si je crains Dieu, la crainte de l'Éternel ajoute des jours. Chapitre 14 des Proverbes, verset 26. Dans la crainte de l'Éternel, il y a la sécurité de la force et il y a un refuge pour ses fils. La crainte de l'Éternel est une fontaine de vie pour éviter les pièges de la mort. Si nous craignons Dieu, eh bien, ce verset des Proverbes nous montre que ça calme l'anxiété. Je me repose sur Dieu, non seulement bénéfice sur ma santé physique, mais ça calme l'anxiété. Et je crois qu'un frère disait ou avait écrit que même les pressions psychologiques sont écartées. Nous savons que dans le travail, de plus en plus, il y a ces pressions psychologiques. Il faut arriver à des résultats. Et ceux qui ont des chefs, qui imposent donc des choses à faire, augmenter, etc., eh bien, il y a des pressions psychologiques. Eh bien, dans la crainte de l'Éternel, il y a la sécurité de la force. Je m'en remets à Dieu. Eh bien, ces pressions psychologiques qu'on pourrait avoir même dans le travail, eh bien, Dieu va nous enlever ce fardeau sur nos épaules. Encore, nous avons vu là surtout les bénédictions qui sont liées à la crainte de Dieu individuellement. Juste dans le psaume 128, nous allons voir que, rapidement, qu'il y a des bénédictions qui sont liées à la crainte de Dieu dans le cercle de la famille. Psaume 128, « Bienheureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies, tu mangeras du travail de tes mains. » Voyons donc que le travail est donné. Tu seras entouré de biens. Et ta femme sera au-dedans de ta maison comme une vigne féconde. Tes fils seront comme des plants d'olivier autour de ta table. Ainsi, voici, ainsi sera béni l'homme qui craint l'Éternel. Des bénédictions qui sont accordées à la famille quand il y a la crainte de Dieu. Et au verset 6, il nous est dit que « et voir des fils de tes fils, la paix soit sur Israël », c'est-à-dire que les bénédictions vont s'étendre à tout le peuple de Dieu. Ici, dans le psaume, bien sûr, il s'agit des Israélites, et donc la bénédiction était étendue à tout Israël. Mais si nous appliquons ces versets à ce qui nous concerne, eh bien, il y a des bénédictions qui sont accordées à la famille quand il y a la crainte de Dieu. Ces bénédictions ne sont peut-être pas toujours visibles immédiatement, mais c'est une promesse que nous avons encore dans la parole de Dieu, et ces bénédictions pourront s'étendre à tout le peuple de Dieu. Bénédictions liées à la crainte de Dieu individuelle. Bénédictions liées à la crainte de Dieu dans la famille. Nous allons lire un dernier verset maintenant sur les bénédictions qui sont liées à la crainte de Dieu dans l'Assemblée. Alors, dans les Actes des Apôtres, c'est un verset qui est très connu. Actes, chapitre 9. Verset 31. Les assemblées donc par toute la Judée et la Galilée et la Samarie étaient en paix, étant édifiées et marchant dans la crainte du Seigneur, et elles croissaient par la consolation du Saint-Esprit. La petite note de les assemblées, dit-elle, nous dit, plusieurs lisent l'assemblée. Les auteurs qui ont commenté ce passage, comme commentaire, ont dit que l'assemblée en général était en paix, c'est-à-dire que la période de persécution qui venait d'avoir lieu et qui s'est arrêtée avec la conversion de l'apôtre Paul, eh bien c'était une période plus paisible, et donc l'assemblée en général était en paix. Mais on peut interpréter aussi que les assemblées, c'est-à-dire que chaque assemblée localement était aussi en paix. L'assemblée en général et l'assemblée localement, chaque assemblée était en paix. Alors pourquoi le Saint-Esprit insiste sur « était en paix » C'est parce qu'elles étaient édifiées. Il y avait de l'édification. Et c'était une édification qui était commune pour tous les saints. Quand nous sommes assemblés dans une réunion pour l'édification ou pour l'étude peut-être, eh bien, s'il y a de l'édification, c'est-à-dire que s'il y a l'action du Saint-Esprit qui n'est pas entravée, eh bien, il y aura des saints qui sont édifiés. Et quand la parole de Dieu, par le moyen du Saint-Esprit, est appliquée à nos cœurs et à nos consciences, et que nous réglions nos voies collectivement par cet enseignement, eh bien, les assemblées, à ce moment-là, marchent dans la crainte du Seigneur. Être édifié, c'est par l'action du Saint-Esprit, par le moyen de la parole de Dieu. Et s'il y a une vraie édification de l'Assemblée, de tous les saints, eh bien, la première conséquence, eh bien, cette Assemblée va marcher dans la crainte du Seigneur. Et ensuite, elle va croître par la consolation du Saint-Esprit. Alors, on s'est posé bien sûr la question, est-ce que c'était une croissance par le nombre, c'est-à-dire la multiplication des frères et des sœurs, des conversions multiples, peut-être, mais aussi, il y avait une croissance spirituelle de chaque saint, de chaque chrétien qui faisait partie de ces assemblées. Et nous voyons donc que pour qu'il y ait une bénédiction dans l'assemblée, eh bien, il faut que l'assemblée soit édifiée, que l'action du Saint-Esprit ne soit pas entravée par le moyen de la parole de Dieu appliquée au cœur et aux consciences. Et la conséquence en est une marche dans la crainte du Seigneur et une croissance spirituelle, si ce n'est par le nombre, eh bien ce sera une croissance spirituelle de chaque croyant qui fera des progrès, un développement personnel dans la connaissance des voies de Dieu. Et nous voyons que quand il y a une telle chose, de telles choses, eh bien, les cœurs des saints, des croyants, sont consolés. Et c'est une action aussi du Saint-Esprit. Eh bien, que nous fassions des progrès, chacun individuellement, quant à la crainte de Dieu, chacun aussi en famille, quant à la crainte de Dieu, et aussi collectivement quant à la crainte de Dieu, c'est le seul chemin pour qu'il y ait de l'édification et de la croissance. Nous n'oublions pas toutes ces bénédictions qui sont liées à la crainte de Dieu, les unes s'ajoutant aux autres. Il y en a sans doute d'autres, ce n'est sans doute cité qu'une partie. C'est une recherche qui peut être très heureuse, de connaître toutes les bénédictions qui sont liées à une vie de piété.
Le verset de Job qu'on a lu tout au début est intéressant parce qu'il vient à la fin de ce chapitre 28 et il vient en réponse à une question qui est répétée à deux fois. Au verset 12, une première fois, « Mais la sagesse, où la trouvera-t-on ? Et où est le lieu de l'intelligence ?» Puis de nouveau, au verset 20, « Mais la sagesse, d'où vient-elle ? Et où est le lieu de l'intelligence ?» Et ces deux versets commencent par « mais ». Ils viennent chaque fois en conclusion d'un développement où Job passe en revue des réalisations, si on peut dire, que l'homme a pu faire en son temps pour explorer des choses inconnues, des choses difficiles, et où, au fond, ayant mis à nu toutes sortes de secrets, il est toujours sur sa faim. La sagesse, l'intelligence, il n'en a pas plus, il n'a pas trouvé en faisant tout ce que l'homme sans Dieu appellerait des exploits, il n'a pas plus avancé quant à ce qu'est la sagesse, la vraie sagesse, quant à ce qu'est l'intelligence. Et ce verset 28 vient comme une espèce de conclusion, au fond, qui peut rejoindre certains aspects qu'on trouve dans l'Ecclésiaste, tous les efforts que l'homme fait sont vanité. La réponse, elle est ailleurs, dans ce verset 28, qui est comme une espèce de réponse globale, absolue. Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, et se retirer du mal est l'intelligence. Dans le livre de Job, comme dans les Proverbes, on a souvent ce développement d'une pensée qui est toujours dit en deux phrases. Une chose dite une première fois, puis renforcée dans une deuxième phrase. Ou bien une chose dit dans un premier temps, une première phrase, et le contraire dans une deuxième phrase. Et là, au fond, quand on lit ce verset, on voit bien que crainte du Seigneur et se retirer du mal, c'est présenté comme synonyme. La sagesse, l'intelligence sont là comme deux mots pour parler de la même chose. Alors si on va au début du livre des Proverbes, on a un verset qu'on connaît bien, premier chapitre des Proverbes, où les choses sont dites un petit peu autrement. Au verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Là, on a le côté du contraste. Mais la crainte de l'Éternel n'est pas présentée là comme la connaissance, mais comme le commencement de la connaissance. Alors, je voudrais illustrer ces deux manières d'aborder ce point par un bout d'un récit de la vie de David, où dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 15, on ne va pas commencer au chapitre 15, on va commencer d'abord, c'est avant que ça commence, c'est au chapitre 13, oui, chapitre 15, on y arrivera après. Chapitre 13, verset 1er, et David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes, et David dit à toute la congrégation d'Israël, si cela est bon devant vous, et que cela vienne de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos autres frères qui restent dans tout le pays d'Israël, et en même temps vers les sacrificateurs et les lévites, dans leurs villes et leurs banlieues, afin qu'ils se rassemblent auprès de nous, et ramenons l'arche de notre Dieu, car nous ne l'avons pas consultée au jour de Saül. Et toute sa congrégation dit qu'on fit ainsi, car la chose était bonne aux yeux de tout le peuple. Un peu plus loin, verset 6, David monta et tout Israël à Baala, à Kiriat Jearim, qui appartient à Juda, pour en faire monter l'arche de Dieu, l'Éternel, qui siège entre les chérubins, duquel le nom est placé là, et ils montèrent l'arche de Dieu sur un chariot neuf, et l'emmenèrent de la maison d'Abinadab, et Uzza et Akio conduisaient le chariot. Et David et tout Israël s'égayaient devant Dieu de toute leur force avec des cantiques et des harpes et des luttes et des tambourins et des cymbales et des trompettes. Et ils arrivèrent à l'aire de Kidon, et Uzza étendit sa main pour saisir l'arche, parce que les bœufs avaient bronché. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Uzza et le frappa, parce qu'il avait étendu sa main sur l'arche, et il mourut là devant Dieu. Alors, au départ, une intention. David est roi maintenant. L'Éternel a jugé Saül. Le peuple a choisi, a reconnu que l'Éternel avait choisi David. David est roi sur Israël. Et voilà, David tient conseil pour chercher cette arche. Si on lit juste un verset dans le psaume 132, je crois, 132, on a ce David qui exprime, je lis d'abord au verset 6, « Voici, nous avons ouï parler d'elle à Ephrata, nous l'avons trouvée dans les champs de Jar. » La Tot nous dit de elle, l'Arche de l'Alliance. Dans les champs de Jar, on vient de lire Kiriat Jearim, c'est là où l'Arche avait été hébergée après qu'elle soit revenue des Philistins. Et les versets précédents, qu'est-ce qu'ils disent ? Éternel, souviens-toi de David et de toutes ses afflictions, comme il a juré à l'Éternel et fait un vœu au puissant de Jacob. Si j'entre dans la demeure de ma maison, si je monte sur le lit où je couche, si je permets à mes yeux de dormir, à mes paupières de sommeiller, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, des demeures pour le puissant de Jacob. On voit que ce souci de l'arche était quelque chose très profond dans le cœur de David. Il en avait entendu parler à Éphraïm, à Bethléem, à la maison de son père. Où était l'arche? Et voilà, le moment était venu où cette arche pouvait sortir de cet abri où elle était loin de tout le peuple, au lieu d'être au milieu de tout le peuple. La crainte de l'Éternel est une réalité qui traverse la vie de David. Il y a des hauts et des bas. Il y a des moments de découragement, de doute, il y a des fautes dans la vie de David. Mais la crainte de l'Éternel traverse sa vie. Pour autant, là, qu'est-ce qu'il fait ? Il consulte les princes, les chefs de milliers, les princes. Il y a un enthousiasme. La foi, la piété de David a quelque chose de communicatif. Y avait-il, chez tous ces chefs de milliers, chez tous ces princes, le même exercice? En tout cas, voilà, il y a un enthousiasme, il y a une volonté, un désir de faire cela pour Dieu. Et ils vont chercher cette arche. Et si je m'occupe juste d'abord du verset 8, « David et tout Israël s'égayaient devant Dieu de toute leur force, avec des cantiques, des harpes et des luttes. » Mais on a ce mais. Verset 7, « Ils montèrent l'arche de Dieu sur un chariot neuf et l'emmenèrent de la maison d'Aminadab. » On n'a pas là le temps de chercher tous les passages à mettre en rapport avec ce bout de verset. « Ils montèrent l'arche sur un chariot neuf. » C'est ce qu'ont fait les Philistins pour renvoyer l'arche à Israël. Mais ce n'est pas ce que l'Éternel avait prescrit quand il avait donné toutes les directives concernant le tabernacle. Plus loin, alors que Voilà, au verset 9, il nous est dit « les bœufs avaient bronché ». Qu'est-ce que ça veut dire? Les enfants, pour que ce soit clair, et vous imaginez un chariot sur des chemins qui n'étaient pas des beaux, belles routes macadamées, mais des chemins empierrés, tirés par des bœufs, le chariot, il cahote. Et voilà que les chevaux bronchent, c'est-à-dire qu'ils hésitent, ils marquent un temps d'arrêt avant de repartir, et toute cette charrette se fait secouer, et voilà, Usa craint, quoi, que l'arche se renverse. Et il met la main pour la retenir. Il met la main sur l'arche. Et au fond, qu'est-ce que traduit ce geste? Une méconnaissance à la fois de la sainteté de Dieu qui veille sur ce qui le concerne et un manque de confiance que Dieu peut veiller. Et tout cela dans un contexte où Usa et tous ceux qui étaient autour, à commencer par David, par les Lévites, étaient dans l'ignorance, avec des responsabilités très diverses pour les uns et pour les autres, que la manière dont ils montaient cette arche n'était pas selon le commandement de Dieu. Alors si on tourne la page au chapitre 15, on voit que David, l'arche a été mise de côté à la maison d'Obed-Edom. David s'est retiré, troublé. Probablement il n'était pas le seul. Ceux qui craignaient l'Éternel devaient être troublés. Il nous est parlé essentiellement de David. Et David, au chapitre 15, verset 2, « Alors David dit, il ne convient pas que l'arche de Dieu soit portée par personne excepté les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel au lieu qu'il lui avait préparé. » Alors, suit une série de noms de Lévites, et plus loin, il nous dit, il interpelle David, verset 11, « Appela Tsadok et Abiathar, les sacrificateurs, et les Lévites, je saute les noms, et il leur dit, « Vous êtes les chefs des pères des Lévites, sanctifiez-vous et vos frères, et faites monter l'arche, l'Éternel, le Dieu d'Israël, au lieu que je lui ai préparé, car parce que vous ne l'avez pas fait la première fois, l'Éternel, notre Dieu, a fait une brèche parmi nous, car nous ne l'avons pas recherché conformément à l'ordonnance. » Remarquez la distinction qu'il y a entre le « vous » et le « non » et le « nous ». Des niveaux de responsabilité différents. Où était le problème? Ils n'avaient pas fait les choses selon l'ordonnance de l'Éternel. Les Lévites devaient porter l'arche sur leurs épaules. Le chariot était une invention que les Philistins avaient faite, pensant amadouer ce Dieu si puissant qui avait semé le trouble dans tout le pays des Philistins. Dieu pouvait tolérer cela des Philistins, et même, quand on reprend le passage, il l'avait fait, les Philistins, il y avait un côté... Ils avaient fait une chose qu'ils pensaient impossible, atteler des vaches qui allaitent à un chariot. Le bon sens de celui qui connaît ce que c'est des vaches qui allaitent, à qui on a pris les veaux, veut dire que ces vaches refuseraient de tirer cette charrette et ce serait le désordre complet. Mais non, Dieu a mis la main sur ces vaches et elles sont parties tout droit vers Israël. Dieu avait sa main pour garder son arbre. Mais imiter ce moyen de la part d'Israël, de David roi, des sacrificateurs qui avaient cette responsabilité de porter l'arche, des Lévites qui étaient associés au service du temple, c'était une ignorance ou une négligence coupable. Pourtant, on ne peut pas nier que chez toutes ces personnes, il y avait une crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu n'est pas un but. Elle est un point de départ. Elle est en quelque sorte, si je peux prendre une image, le terreau sur lequel cette sagesse peut croître, de pas en pas. C'est un élément incontournable, indispensable, pour avancer dans le chemin. Et étape après étape, il y a cet apprentissage. Ce jour-là, ce début de ce chapitre 15 nous montre une grande leçon que David et probablement ses sacrificateurs, ses lévites, ont appris ce jour-là. Revenir à la parole de Dieu, se soumettre à ce qui avait été donné par Dieu, faire selon ce qu'il avait prescrit. Et alors Dieu peut bénir et on peut avancer de force en force. Alors on peut entrer dans cette connaissance de Dieu, dans cette intelligence, sur ce terrain de crainte de Dieu qui reconnaît ses erreurs, qui reconnaît ses faux pas, qui reconnaît ses mouvements d'incrédulité, de doute, et qui reprend le chemin en ayant appris quelque chose de plus. La suite nous dit qu'après, il y a eu une grande joie, qu'il y a eu cette louange pour Dieu. Dieu a béni. Et remarquons aussi que si Uzza n'avait pas porté la main, l'arche, on n'en sait rien, c'est de la spéculation que je fais là, mais l'arche serait peut-être arrivée sans encombre à Jérusalem. Dieu a usé de grâce avant que Uzza porte la main sur l'arche. À ce moment-là, Dieu avait supporté cette ignorance qui était au fond coupable. Mais Dieu a permis qu'il y ait cet événement pour apprendre une leçon, pour faire apprendre à chacun, chacun selon sa responsabilité, une leçon. L'apôtre Jean, dans la première épître, évoque cette succession, petits-enfants, jeunes gens, pères. À un moment, nous sommes tous des petits-enfants et nous grandissons. Et la croissance normale, c'est de devenir des jeunes gens. Et comme jeunes gens, nous devenons adultes, nous sommes adultes, nous vivons, nous croissons, nous avançons. Et la croissance normale, c'est de devenir un père. Un père dans le sens de celui qui a, un peu dans le sens de ce qui est des hommes faits, dont il est parlé dans l'Épître aux Hébreux. Alors, voilà, la crainte de Dieu et la sagesse, elle est le commencement de la sagesse.
Simplement rappeler l'histoire du début de l'Église. Et nous voyons dans le chapitre 2 du livre des Actes que lorsqu'ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, verset 42, et dans la fraction du pain et dans les prières, alors, il est dit que toute âme avait de la crainte. C'était le début de l'histoire de l'Église. Ça ne change rien aujourd'hui. La crainte de Dieu, on l'a vous rappelé, c'est le commencement de la sagesse. Et nous ne pouvons que prier et que ce que chacun, aujourd'hui, puisse avoir cette crainte de Dieu. Nous voyons que ces âmes, ils vantaient toute la possession et distribuer à ceux qui n'avaient rien. Chapitre 2, versets 42 à 45. Et au chapitre 5, nous voyons que lorsque Ananias et Saphira y vendaient leur possession, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont menti du prix qu'ils ont reçu. Et alors Pierre les a redressés et nous voyons qu'il pouvait dire à Ananias qu'on peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Et tous ceux qui ont entendu ces paroles, ils avaient une grande crainte. Et chapitre 5, verset 5, une grande crainte les empara tous ceux qui avaient entendu ces paroles, parce que nous voyons que Ananias et Saphira expira. Et nous voyons qu'ils étaient des croyants, mais ils ont menti à l'esprit, ils ont menti à Dieu. On ne peut pas mentir à Dieu. Et puis, nous voyons au verset 11 du chapitre 5, livre des Actes, une grande crainte s'empara de l'assemblée, de toute l'assemblée et de tous ceux qui avaient entendu ces paroles. Nous voyons que la crainte de Dieu est indispensable, c'est-à-dire recevoir sa parole et marcher selon les enseignements que ce Dieu nous donne à travers sa parole. Et la recevoir d'un cœur honnête et bon, et ainsi marcher dans la crainte qui lui est due. Cela honore, nous avons chanté, que celui qui m'honore, dit le Seigneur, honore le Père.